Ce chiou est dédié pour la Refoua Shlema, la guérison complète et rapide de Eva Bat Ninette d'Emery. La question de Jackie. Oui, Jackie.
Je voulais savoir comment, si l'homme est fini, il peut croire à quelque chose d'infini, particulièrement avoir la foi dans le cadre du Roku. Si l'homme il est régulé par les lois de la nature, il réfléchit logiquement, etc. Là, ça serait pas logique de croire à quelque chose qu'on voit pas ou qu'on ne sait pas. Là, je veux savoir comment.
Ok. Bonne question. La réponse est la suivante. Nous sommes formés de plusieurs parties. Et le corps. Le corps qui est auquel nous sommes sensibles au moyen des cinq sens. Il y a une partie qui est plus haute, qui est déjà sentimentale. Puis il y a l'imagination. Et tout en haut, il y a la raison. Alors on va se borner aux deux dernières choses que j'ai citées. L'imagination et la raison. L'imagination, comme son nom l'indique, elle montre des images. Et quelqu'un qui ne fait pas attention à cela vivra 99,9% de son temps dans l'imagination. Il s'imagine des choses, il s'imagine comment ça va être, il s'imagine qu'on lui veut du mal, ou qu'on lui a fait du bien, ou que ça va être bien, ce sera comme ça, et qu'il sera riche, il sera heureux, il sera machin. D'accord ? Ça, c'est imagination. L'imagination ne peut voir que des images. Or, toutes les images sont finies. Tu n'as aucune image de l'infini. La raison, elle, ne voit pas d'image. Un raisonnement, c'est si je dis maintenant, si A est égal à B, B est égal à C, alors A est égal à C. Un gosse, qui n'a pas développé encore sa raison, lui, il voit des images. Il voit A égale B, B égale C, alors A égale C. Il voit les lettres. Il est égal. Mais quelqu'un qui développe sa raison comprend que sans qu'on voie maintenant A, B et C, on comprend que c'est un raisonnement logique. Sans voir d'image. On le voit beaucoup dans la Gemara. La Gemara va utiliser des scènes, des cas qui sont des cas concrets, mais par ces cas concrets, elle va développer en nous une analyse rationnelle de ce qu'on voit. Et tu vois que des fois, le type, il va se concentrer, il voit qu'est-ce qui s'est passé. Alors le type, il est tombé, il a trébuché, il est tombé dans un trou. Il doit s'imaginer la chose pour commencer lentement à monter et développer après la logique pure. Mais le but, c'est de développer la logique pure. Maïmonide dit que c'est le seul moyen de se brancher avec Hachem. Il dit que c'est le chef, c'est le flux qu'il y a entre nous et Hachem. Et qu'il est dans nos mains de l'élargir ce flux ou de le rapetisser jusqu'à le rendre inexistant. Asachel, comme ça s'appelle ça, la raison pure. La raison pure peut comprendre très facilement que l'infini existe. Sans le voir. Mais on n'est pas obligé de voir pour croire. Par exemple, tu ne vois pas ma pensée. Pourtant, tu n'as aucun doute qu'elle existe. D'autres exemples de choses qu'on voit sans croire. Pardon ? Qu'on croit sans voir. Pardon ?
L'amour.
L'amour, c'est un sentiment. Donc, on le vit. Une réalité. Par exemple, si on le voit, on va dire... Bon, on peut dire des choses qu'on ne voit pas. Prenons un exemple. Je prends ici ma clé. J'allâche. Qu'est-ce qui se passe ? Tu peux essayer un milliard de fois. Jamais elle monte. Comment ça se fait ? Non, je vais la lâcher, elle va rester sur place. Il y a une loi dans la nature que les choses agissent au moyen de... Il faut exercer une force pour la mouvoir. Donc, comment ça se fait que maintenant, elle tombe ? On répond, il y a une force. C'est de quoi il y a une force ? Il y a une chose que tu ne vois pas, qui agit. Pourtant, elle est là. Pourtant, tu ne la vois pas. Tu en vois peut-être le résultat. Bon, nous, on a le monde pour voir que Hachem existe. Maïmonide va dire une preuve très claire comme quoi Hachem existe, très rapide, et on peut bien sûr développer ça presque à l'infini. Il dit, on voit que dans le monde, il y a des mouvements infinis. la Terre tourne autour du Soleil de façon infinie. La Terre tourne sur elle-même de façon infinie. Dans les atomes, les électrons tournent autour du noyau, le mouvement infini. Maintenant, forcément, pour créer un mouvement infini, il faut avoir une force infinie. Tu ne peux pas créer une chose qui soit plus grande que toi. Quand tu as un créateur et une créature, qui est plus grand, toujours le créateur. Parce que le créateur est capable de donner une certaine force dans la créature. Si le créateur peut donner à une créature une force infinie, ça prouve que lui-même, il a une force infinie. Ça prouve donc, la nature nous montrant qu'il y a autour de nous des éléments qui ont une force infinie, ça prouve qu'il y a derrière eux un créateur, quelqu'un qui a fait cela, qui a une force infinie. Elle devrait jouer. Tu ne le verras pas. Mais ta raison peut le comprendre. Maintenant, un autre travail, c'est un travail de foi, de mise en relation avec ça. Ça, c'est autre chose. On en parle tout de suite, il y a une question. Oui.
Quand la cause est plus forte, entre guillemets, c'est la conséquence.
Oui.
Et par exemple, je sais pas, des parents, ils peuvent avoir des enfants qui seront plus forts physiquement ou intelligemment ou machin que.
Mais c'est quand même eux qui ont insufflé ça chez les enfants, c'est pas venu d'autre part.
Oui,
non,
ils ont créé, entre guillemets, créé
deux parents qui sont des gringalets. Mmh. Peuvent mettre au monde un poids lourd, d'accord. Mais le petit spermatozoïde, dont vient le poids lourd avec l'ovule, dont vient le poids lourd aussi, ils avaient en eux des gènes de poids lourd.
Mais ils n'ont pas pu en disposer pour eux-mêmes.
Ok, mais ces gènes venaient d'où? Elles étaient où? Chez eux.
C'est vrai qu'ils sont plus forts qu'eux.
Donc eux avaient en tout cas la capacité, avaient en eux la capacité de créer cela. Ce truc-là ne s'est pas fait par lui-même. C'est quelqu'un qui lui a donné son poids lourd. Qui est le père et la mère? Ah, le père et la mère ne sont pas poids lourds. Ok, mais néanmoins, ils ont eux des gènes de poids lourds. C'est pas comme le cas dont je parle. Tu me dis qu'Hachem peut-être qu'il est fini, et alors il a créé une force infinie. Comment un fini peut-il insuffler une force infinie? Comment un UN fini peut-il créer une force infini? Impossible. D'où il tient cet infini? D'où il tient cette force infinie? Oui.
Par exemple, un homme, il peut créer un programme informatique infini.
Parce qu'il a en lui une raison qui peut concevoir l'infini. Le programme ne s'est pas fait par lui-même. Le programme, il est une projection d'une pensée. La pensée, elle est où? Dans la tête du type.
Hachem, il a pu avoir une projection d'une pensée qui était infinie.
Donc il y a des gens pensés l'infini.
Oui.
Ok, c'est bon, ça me suffit.
Donc c'est-à-dire que nous aussi, on est infini, alors?
Certainement. On a une partie infinie en nous, Hachem, bien sûr.
Neshama
est une partie d'Hachem, oui. On peut dire pas Neshama, la partie la plus haute de Neshama, oui. Elle est divine, absolument. Tout. Il ne peut pas y avoir une vie sans de vide. Il ne peut pas y avoir, même pas de vie, il ne peut pas y avoir d'être sans qu'il y ait Hachem qui insuffle de la vie, de l'être. Et c'est marqué, Denafar, celui qui a insufflé, Midile Nafar, de lui-même il a insufflé. Hachem insuffle de lui-même, c'est-à-dire de son être infini, il a insufflé même un petit moustique, dans un grain de sable, d'accord, un atome, un protozoa, tout ce que tu veux, les éléments de vie les plus insignifiants qu'il puisse y avoir, les plus inertes, d'accord, existent. Si on prend maintenant un microscope très grand, on peut voir là-bas des milliards d'atomes qui sont en pleine énergie, en train de tourner. Cette énergie, elle est infinie, elle provient d'Hachem, c'est clair. Et à la base, c'est lui-même. L'énergie qu'il insuffle, c'est lui-même.
Vous avez dit à cette fois que c'était la Neshama qui commandait de le faire mourir. C'est-à-dire que c'est la Neshama qui commande la raison. Et donc c'est la raison. C'est-à-dire que notre raison, notre pensée peut être infinie parce qu'on a un concepteur qui est infini. Mais ça provient de la Neshama, parce que la Neshama est infinie. C'est ça?
Alors comme ça, on a plusieurs parties de Neshama. J'ai dit la partie la plus haute, la racine. On appelle ça la Neshama de la Neshama. La Neshama de la Neshama, c'est Hachem.
Oui, mais c'est la Neshama qui va commander la raison. C'est pour ça qu'elle a infini la raison.
Qui commande la raison? Qui commande la raison? La raison, c'est une faculté que j'ai chez moi. Maintenant, c'est moi. Moi, c'est le roi. C'est la partie plus basse qui peut décider maintenant. Le rouar, il y a trois parties en nous, essentielles. Nefesh, rouar, neshama. Le nefesh, c'est ce qui régit le corps. Les envies, les réflexes, les sensations. La neshama, c'est complètement raison, raison pure. C'est l'éclairage d'Hachem. Ça, ce sont deux parties qui me sont données à moi. Moi, c'est qui? C'est le rouar. Maintenant, je sens très fort mon corps, je sens aussi très fort ma neshama, ou je peux sentir très fort ma neshama. Mais ce n'est pas mon vrai moi. Mon vrai moi, c'est ça. Dans le rouar, il a le choix maintenant de suivre l'appel de la neshama ou l'appel de la pulsion du nefesh.
Et ça va ou bien ça?
Si tu veux. Ouais, ouais, ça revient à ça. D'habitude, ça revient à ça. Ken.
Même les animaux, ils ont pas bien fini ou pas?
Bien sûr.
Ouais.
Mais comment une chose peut être? Il n'y avait rien. Et du coup, il y a eu. Hachem a créé. Hachem a donné, envoie une force qui a fait qu'il y ait. La Kabbalah dit maintenant, chaque seconde, chaque milliseconde, chaque milliardième de seconde est plus petit, là, jusqu'à l'infini, Hachem, il insuffle qui est l'être, l'existence, la réalité. Si Hachem arrête, il n'y a plus de réalité. Donc tout existe grâce à Hachem. Donc tout a une partie divine qui le... Maintenant, tu as une partie divine d'un escargot, une partie divine d'un grand sage Israël. Ce n'est pas tout à fait comparable.
Mais la chose qui est la partie divine, c'est pas juste Hachem qui
insuffle. Elle lui insuffle quoi? On a dit des nafars. Celui qui a insufflé, de lui, mais il a insufflé maintenant. Vu que tout ce qui est existant provient de ce qu'il a insufflé, donc c'est-à-dire qu'il y a une partie d'Hachem, mais petite. Tu comprends, on ne peut pas dire qu'un escargot est infini. Il a de l'être, parce que quelque part, il y a un petit millimètre d'infini qui arrive et qui donne être à l'escargot.
L'homme n'est pas infini, alors il y a juste un truc infini à l'intérieur, mais lui n'est pas.
C'est qui lui?
L'homme.
C'est qui l'homme?
Ah, on peut dire que l'homme, c'est la nature.
Qui sommes-nous? Ton corps, t'as le corps. Maintenant, t'as ce qui fait vivre le corps, ça, c'est le nefesh. T'as le rouar, c'est ta volonté. T'as le neshama, c'est l'appel d'Hachem. Tu as la chaya, c'est encore plus haut. T'as l'echida, c'est la partie divine, c'est la neshama de la neshama. Ce que je dis, c'est la partie complètement divine qui est ta source. Le vrai toi qui décide je veux pas, c'est le rouar. Ok. Le roi qui est branché à l'infini par le biais de Neshama Chaya Yechida, lui-même il a un produit de l'infini, on va dire, comme escargot l'a aussi, donc il a quelque chose aussi d'infini en lui, très très petit, mais un roi peut décider de complètement s'investir dans le nefesh, de devenir animal, de suivre que les puissants.
C'est peut-être l'homme qui a créé le monde.
Je
n'ai
pas compris.
En théorie, l'homme il a pu créer le monde puisqu'il est infini.
Mais d'où vient son infini? Il est créature, il n'est pas créateur, l'homme.
Et Hachem, il est infini aussi.
Mais lui est créateur.
Voilà, c'est ça, à d'un homme,
l'homme a un début, Hachem n'a pas de début. Le jour où l'homme a eu un début, il n'était pas, du coup il a eu. Comment, et tout d'un coup il a été. Comment il a été?
Hachem, comment il a été?
Ah, ça c'est la question des enfants. Qu'est-ce qu'il y a avant Hachem? On répond à l'enfant, Hachem a toujours été. Oui, mais avant. Il a toujours été. Oui, mais... Avant le toujours, il a toujours été. Et le gosse ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'un gosse, il fonctionne au niveau... Pas la raison, justement. Au niveau des sentiments, au niveau des sens. Et dans les sens, dans l'imagination, il ne peut pas voir une chose qui est infinie. Alors on le dit toujours. Alors il lui prend le mot toujours, il voit le mot toujours. Et il dit oui, mais avant. Ça, c'est de l'image. Il voit des images. Mais imaginer, entre guillemets, une chose qui n'arrête jamais, il ne peut pas. Parce qu'on ne peut pas imaginer. C'est la raison. Un gosse n'a pas de raison. Très peu. Ça prend du temps. Il y a beaucoup d'adultes d'ailleurs qui posent la question. D'accord, il faut redévelopper la raison pure, comprendre qu'il y a des choses qui existent bien que je ne peux pas les imaginer. Oui.
C'est le rouar qui influence la foi ou c'est l'inverse?
La foi, c'est un éclairage de la neshama. La neshama vient et t'envoie une lumière et ton rouar qui sent cette lumière et il a envie de se coller à ça.
Alors on croit que parce que. Donc ça vient pas de nous, la neshama.
La émouna primaire, eh bien, de l'éducation, elle vient des parents. Après, quand on devient adulte, on a le choix. Soit rester machinalement une petite émouna qu'on a reçue des parents, puis au moins petite, chicno, tac, on est complètement détruit et on quitte tout. Soit on l'a travaillé. soit on l'a complètement renié parce qu'on était attiré par les plaisirs de la vie, soit on s'est dit non, moi je branche avec Hachem, et on a investi là-dedans, on a investi dans la raison, on a investi, je crois que j'ai une pulsion, bien vérifier avec ma raison, est-ce que c'est juste ou faux, je la suis ou je la suis pas, se battre contre ces pulsions. Lentement on commence à créer chez nous un être de sainteté qui adore Hachem, qui aime la Torah, qui aime ce qui est beau, ce qui est beau au niveau spirituel, ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est honnête, ce qui est droit, la kedusha, la sainteté. La foi, c'est ça la foi. La foi, c'est qu'est-ce que s'appelle la foi ? La foi, c'est un sentiment.
C'est un travail ou ça vient
par les parents un peu. Ouais. Après, c'est ce travail. Ça, c'est le rouar qui va décider. Le rouar qui décide, il peut décider maintenant de moi, je veux maintenant agrandir ma foi. Je vais maintenant faire des choses qui vont faire que je vais plus entendre l'appel de ma neshama. Qu'est-ce qu'on fait pour plus entendre l'appel de la neshama ? C'est le roi qui décide. Je vais faire du moussard.
Elle est plus haute.
Elle est plus haute.
Comment le roi qui peut influencer sur la neshama qui, elle, est plus haute ?
Non, le roi qui décide. Il y a un appel à la neshama, c'est comme un projecteur sans cesse qui éclaire. Maintenant, la neshama, elle a mis un parapluie. Elle veut pas, le roi, il ne veut pas écouter l'appel de la neshama. Tous les péchés qu'on a fait, ça fait des écrans. Il y a des écrans. Il y a beaucoup. Ah, j'en ai parlé souvent dans mes cours. Hachem veut qu'il y ait un libre arbitre. Alors il a donné une très grande prépondérance au corps. Quand on naît, on ne sent que le corps, on ne sent pas la neshama. La neshama commence un tout petit peu à l'âge de 13 ans. Après, lentement, jusqu'à l'âge de 20 ans, ça commence à se développer. C'est vers 15, 16, 17, 18 qu'on se pose des questions existentielles. 20, etc. Mais le corps, il est là depuis longtemps. Et le corps, il est attiré parce que c'est bon. La ta'ava, le plaisir, la jouissance du monde, c'est bon. C'est bon. La neshama, c'est très bon aussi, mais ok, c'est loin, c'est pas tangible. Donc, il y a un appel à la neshama, mais il reste du domaine éthéré, un peu spirituel, alors que le corps, il dit, regarde, moi je te parle de façon réelle, ce qui est tout faux, parce qu'on sait que le réel n'est pas réel. On sait très bien qu'aujourd'hui, la table que tu vois ici, c'est pas une table. Enfin, c'est une table, mais elle est réelle. De quoi elle est faite, la table ? Elle est faite de milliards d'atomes, qui sont faits de quoi ? Dans l'atome, il y a un noyau et des électrons qui tournent. À quelle distance ? Si le noyau est grand comme une orange, les atomes tournent à 2 km. Les électrons tournent à 2 km. Donc, un atome, il est rempli de vide. Donc, si je prends que la matière, c'est-à-dire que je prends que les noyaux avec les électrons, si les électrons, c'est de la matière, admettons, de la table, j'enlève tout le vide qu'il y a, la table devient invisible à l'œil nu. Et pourtant, je la vois. Poutre aux yeux. Comment c'est que je vois la table ? Parce que les électrons qui tournent très vite, ils créent un champ électromagnétique. Et la lumière du néon touche ce champ électromagnétique, rebondit sur ce champ électromagnétique et touche ma rétine. Et moi, je vois la table. Mais en fait, c'est du vide. Non, ouais, mais si maintenant je m'écrase le nez sur la table très vite, quelqu'un prend une table et. D'accord. J'ai pas rêvé. Erreur, mon cher ami. C'est le champ électromagnétique de la table qui a heurté le champ électromagnétique de ton nez. Ce ne sont que des champs. Un champ, c'est même pas de la matière, c'est rien, c'est un champ.
C'est pas de matière.
Pas de matière. Et le SRA, ils te disent sois réaliste. Et nous on dit, je ne comprends pas, la seule réalité qui est réelle, c'est-à-dire qui va toujours rester, qui a une réalité indélébile, c'est Hachem. Et lui, dans sa grande bonté, il m'a donné un peu dans ce monde où il n'y a pas de réalité, de lui-même. Tiens, prends ma Torah, quand tu étudies ma parole, tu te branches à la seule réalité qui est réalité. Et les gens disent, tellement ils sont dans le mal, ils disent, mais t'es complètement fou, ça c'est une perte de temps. Mais sois réaliste. De quoi, qu'est-ce que tu vas manger ?
Ce que vous dites, c'est que tout ce soir, de ça avec ce qu'on pense d'ailleurs, vous dites que tout ce qui est imaginaire en fait c'est le matériel, et tout ce qui est raison et réel c'est le spirituel. C'est
ça, vous... Exactement. Exactement. Bah, ou Hadonai, mais.